Voilà, bonjour à tous. Donc alors, mon message va commencer, pas forcément très optimistement. Alors ne partez pas, hein. Le meilleur est pour la fin, d'accord? Donc voilà, nous avons entendu dernièrement des messages sur l'Église, sur la façon dont on devrait la regarder, sur son identité, sur sa mission. Mais moi, je suis quelqu'un de concret, séquentiel. Ok, je me dis d'accord, il faut aller là, mais comment on y va? Et voilà, j'aime savoir ce que je dois faire pour atteindre la cible. Alors bon, j'ai dit Seigneur, ok, c'est bon, d'accord, mais il faut que tu m'en dises davantage. Et je voudrais vous partager ce matin ce qu'il m'a semblé entendre. Bon, bien sûr, la Bible nous donne des pistes, elle nous dit que nous devons être la lumière du monde, le sel de la terre. Ok, mais comment? Peut-être que quelqu'un va dire « Oui, mais tout va tellement bizarrement que je ne sais plus comment faire. » Et c'est vrai, parfois on se pose la question. Est-ce que ça vous ennuie si nous parlons un peu d'histoire de France? Non? Je peux y aller? Merci. Donc, comme vous le savez tous, nous avons été gouvernés par des rois, des empereurs, des présidents. Et un empereur m'a passionné à mon petit niveau d'enseignante primaire. Hein. J'ai aimé explorer sa vie avec mes élèves de CM2. Alors les livres d'histoire nous le décrivent comme quelqu'un de très ambitieux. Une anecdote, mais ça reste une anecdote, hein, disait de lui qu'il avait décidé de gouverner sa maison mais sans y réussir. Bon, il a dit, c'est la faute de ma femme. Elle a mauvais caractère. Donc, il a rejeté la faute sur sa femme et il a décrété qu'il allait devenir gouverneur de la ville. Ça a à nouveau été un fiasco. C'était la faute des administrés. Et puis, son ambition le conduisit à vouloir s'imposer en tant que chef d'État, puis en tant que maître de l'Europe et pourquoi pas maître du monde. Bon, ça reste une anecdote, hein. Mais cet homme qui, paraît-il, était petit par sa taille, on m'a dit que c'est lui qui avait inventé les manches à balai, c'est pour ça que les manches à balai sont courtes, et avait de l'ambition et il n'acceptait pas l'échec. Bon, il a entraîné ses soldats dans des péripéties plus ou moins heureuses, jusqu'au moment où il est devenu encombrant. Et alors là, ses alliés lui ont tourné le dos et il fut exilé dans l'île d'Elbe. Vous l'avez reconnu, n'est-ce pas? Il s'agit de Napoléon Bonaparte. Mais, après quelques mois d'exil, il s'est dit, bon maintenant, on y retourne. Et il réussit à s'enfuir, il reforme une armée et il repart à la conquête de ce qu'il revendique comme sa place, maître du monde quand même. Hein. Et c'est dans cet élan qu'il va connaître une défaite terrible à Waterloo, en Belgique. Il s'est attaqué à trop fort, à trop nombreux, à trop rusé pour lui. Bon, à l'endroit de cet épisode tragique, une butte a été élevée par le roi Guillaume Ier des Pays-Bas, hein, surmontée d'un énorme lion en bronze. Et Victor Hugo, un autre homme que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il a écrit des choses magnifiques, Victor Hugo raconte être allé marcher sur ce lieu pour contempler ce lion, et il a écrit un poème sur cette défaite. Alors les poèmes de Victor Hugo, vous voyez, c'est 30 fois 12 vers, donc on ne va pas le lire en entier. Hein. Mais voilà, je vous le résume. Ce texte raconte une histoire de guerre, de mort et de haine symbolisée par l'effrayante statue du lion surplombant la plaine de Waterloo. Et voici, je vous livre quelques vers que j'ai piqués à droite à gauche. Voici ce que dit M. Victor Hugo. « J'allais voir le lion de Waterloo. J'arrivais jusqu'à lui, pas à pas, m'approchant. J'attendais une foudre. » Et j'entendis un chant. Dans cette espèce d'antre effroyable et difforme, un rouge-gorge était venu faire son nid. Et l'oiseau gazouillait dans le lion pensif, l'espoir dans ce qui fut le désespoir naguère, et la paix dans la gueule horrible de la guerre. Franchement, j'ai aimé. Et en lisant ces lignes, je me suis dit que cette description correspondait à la situation de ce que traverse l'humanité en ce moment. Bon, alors je me suis renseignée auprès de nos artistes, n'est-ce pas? Merci nos artistes, pour savoir quelles couleurs ils utiliseraient si on leur demandait de peindre la société actuelle. Bon, j'ai pas été étonnée quand ils m'ont dit qu'ils prendraient du noir, du gris, des couleurs sombres et un peu de blanc. Donc, ce qui veut dire pas de couleur. Pour moi, la couleur, c'est pas ça. est arrivé ce rouge-gorge. Gazouillant, élevant sa nichée, imperméable à la peur procurée par cette gueule effrayante. Waouh ! Je crois que cet oiseau, cadeau du Créateur, est l'image de ce que nous devons être, vivre et apporter. Dieu est partout, et même dans les endroits les plus noirs. D'ailleurs, c'est son point fort, hein, c'est d'être partout où on ne l'attend pas. Quand on voit certains endroits, on dit « Mais où est Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ?» On se pose des questions. Mais comment est-ce qu'il veut être partout ? Il veut y être au travers de son Église, au travers de nous. Est-ce que vous savez que vous êtes tous des morceaux d'Église ? Un jour, on a eu à Fontenay, quand on y était, un pasteur indien qui nous avait dit que Dieu était très fort parce qu'il était capable de bâtir une église vivante avec des bananes. Disons, on est tous tordus un peu comme ça, mais avec nous, Dieu fait une église. Non. Donc voici notre cible, la cible de l'Église, qu'elle soit faite avec des bananes ou avec autre chose. Hein. Apporter la couleur et l'espoir que donne Dieu dans ce quotidien sombre. Gazouiller comme une volée de rouge-gorge. Nous avons beaucoup d'oiseaux chez nous. Il faut dire que Alain leur tient un restaurant dont la table est toujours bien garnie. Et il y a des rouges-gorges. Mais bon, comme tout le monde chante en même temps, je ne savais pas comment chanter un rouge-gorge. Et je suis allée sur internet, j'ai écouté son chant et je trouve que c'est un chant magnifique, un chant gai et joyeux. Alors comment allons-nous arriver à chanter comme des rouges-gorges ? Bon, on va d'abord planter le décor, c'est là que ça va être sombre. Chaque jour, partout dans le monde, des gens allument leur télé et regardent les informations. Ok. Tout ce qui se passe dans le monde se retrouve diffusé pratiquement sur toutes les chaînes. Le sombre, le négatif se retrouve partout, sur les écrans, dans la presse écrite, dans tout ce qui, tous les comment on appelle ça, les réseaux sociaux, tout ça, tout ça, c'est noir. La peur et la négativité sont aussi présentes à l'excès. Et ces choses-là sont des fléaux qui modèlent les émotions des hommes et nos émotions aussi, malgré nous, malgré notre foi, malgré notre connaissance de l'amour de Dieu. Mais alors que faisons-nous ? Ben voilà, nous montons le son de la télé, nous cliquons sur le lien, nous allons sur la page suivante. Ben, il faut bien se tenir au courant. Attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder les informations, mais pensons à chausser les lunettes divines pour les voir, pour voir les choses comme Dieu les voit. Parce qu'autrement, nous permettons inconsciemment souvent à cette négativité de pénétrer nos esprits. Alors nous inquiétons pour la guerre en Ukraine, pour la 8e vague imminente de la Covid, paraît-il, hein, j'ai entendu ça, hein, pour la variole du singe, je pense qu'elle a fait un peu flop, mais bon, hein, pour la crise économique, pour la situation climatique. Et pourquoi faisons-nous cela ? Simplement parce que nous avons peur. Nos émotions sont colorées parce que nous voyons et entendons. Bon, c'est un secret pour personne que les ténèbres abondent et qu'elles sont prêtes à avaler, engloutir tous ceux qui se sont disposés à se laisser faire. Mais il y a également beaucoup de lumière qui veut percer les ténèbres. Si on lit dans Ésaïe, chapitre 9, verset 1er, « Le peuple qui marche dans la nuit, ça c'est bien ce qui se passe en ce moment, l'humanité marche dans la nuit, voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, la lumière se met à briller. » Et dans un autre, un peu plus loin, au chapitre 42, toujours Ésaïe, verset 16, j'aime ce verset, en fait, je l'avais jamais remarqué, je l'ai découvert récemment. Je vais conduire les aveugles sur une route inconnue, je vais les faire marcher sur des chemins qu'ils ne connaissent pas, devant eux je vais changer la nuit en lumière, je vais enlever les obstacles sous leurs pieds, et voilà ma partie préférée, voilà ce que je veux faire et je n'abandonnerai pas ce projet. Dieu n'abandonnera pas son projet de nous conduire dans la lumière, d'amener la lumière sur l'humanité tout entière. Et la lumière qui brille sur nous, dans ces moments les plus sombres, ben c'est quoi ? C'est la parole de Dieu, c'est notre relation avec lui, c'est sa présence. Pardon, nous sommes ses enfants, non ? Donc, en tant qu'enfants, bien nous avons part à la vie divine. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, la Bible et les promesses de Dieu nous guideront et nous permettront de sortir, d'en sortir. Elle est notre source inépuisable de lumière. Il y a de l'adversité, ok. Il y a des tragédies, c'est vrai. Il y a des incertitudes, oui, bien sûr. Mais Nous sommes inondés de la lumière de Dieu et nous brillons pour ceux qui nous entourent. Dieu nous rassure car il sait que nous-mêmes nous sommes facilement ébranlés. Toujours dans Ésaïe, j'ai passé un bon moment dans Ésaïe dernièrement. Ésaïe 41:10, voici ce qu'il dit. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours, je te protège avec ma main puissante et victorieuse. On dirait que ce verset a été imprimé la nuit dernière, tellement il nous décrit et il nous rassure. Vous en voulez un autre ? Luc 12:32, n'aie pas peur, petit troupeau, votre Père a choisi de vous donner le royaume. On est un petit troupeau, mais notre Père a choisi de nous donner le royaume. Alors nous sommes avertis, nous sommes rassurés, mais malgré tout, nous restons humains. L'abondance d'informations s'accompagne d'une abondance de fausses informations et nous ne savons pas distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Pourquoi ? Ben parce que les médias recherchent l'audimat, ils recherchent l'audience, alors que nous, nous cherchons la vérité. Et en ce moment, nous sommes visés par une campagne de peur et d'incertitude. Je ne vous ferai pas de dessin, hein. Et souvent, ben voilà, nous prenons ces faits annoncés pour des faits vérifiés. Nous lisons, nous écoutons et nous supposons que tout ce qui est écrit ou raconté est réel. En plus, les images choisies le sont pour choquer le regard et l'émotionnel. La parole de Dieu nous a prévenus de ces événements. Dans 2 Timothée 3:1, Paul dit « Tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles ». C'est vrai que c'est pas facile, mais c'est vrai qu'on le savait. Malgré ça, nous sommes paniqués, bouleversés, moi la première. Hein, il suffit que je vois des enfants qui souffrent, que je vois des mamans avec des bébés qui n'ont plus, dont les maris sont partis. Il suffit que je vois tout ça pour que ça, je dis, mais Seigneur, mais attends, tu fais quoi là ? En période d'incertitude, Dieu demeure constant. Nos rêves peuvent prendre l'eau, mais le plan du Seigneur, que le Seigneur a en réserve pour nous, se réalisera. Psaume 94:19, quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est joyeux. Nous ne pouvons pas avoir la certitude de ce qui va se passer demain. Hein? Mais Dieu, si, il sait. Et tout ce que nous avons, ben, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche 28, c'est ça ? Oui. Vous savez, quand on est à la retraite, on ne sait plus quel jour on est. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, on le vit, on est dedans. Mais demain, on ne sait pas. Alors pendant le confinement, Huguette, ma copine, m'a envoyé une vidéo d'une petite fille qui chante, et peut-être qu'elle l'a envoyée à d'autres parmi vous. Et cette vidéo, je l'ai aimée, et vous savez, je l'écoute encore, et je la retourne à Dieu comme une prière. Alors, voici, je vous la lis. Hein. « Mon Dieu, je t'aime et je sais que tu m'aimes. » C'est vrai pour chacun de nous. Aide-moi à croire en ce que je peux être, en ce que je suis. Parfois, on est perturbé, on ne sait plus trop qui on est, on doute de ce que Dieu nous demande, on doute du plan qu'il a prévu pour nous. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Et c'est ces mots qui m'aident, un jour à la fois. Et tous les matins, je dis Seigneur, aujourd'hui encore, guide-moi, un jour à la fois. Un jour à la fois, ô mon Dieu, c'est ce que je demande, le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier est passé, ô mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi. Aujourd'hui, guide-moi, un jour à la fois. Et franchement, c'est la prière de mon cœur. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'aide à avancer chaque jour. Je me dis, bon, aujourd'hui, tu vas me montrer pour aujourd'hui. Hein? Alors, aujourd'hui, es-tu prêt à être un rouge-gorge dans la gueule du lion ? Dieu ne t'a-t-il pas porté jusque-là, quand c'était noir et difficile ? Il est notre certitude dans le chaos et il détient notre avenir. Alors battons-nous pour ce qui compte pour nous. Le rouge-gorge voulait des certitudes pour ses petits. Battons-nous pour notre foi, pour nos familles, battons-nous pour notre région, pour notre pays, pour notre vie. Contre la peur et la négativité, brandissons les armes que Dieu nous a données. Et là, je vous renvoie à Éphésiens 6, versets 13 à 17. Dans 1 Pierre 5:7, il y a un verset intéressant. « Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. » Il n'est pas dit « Dieu va venir arracher vos soucis de vos mains ». Il est dit « Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu ». Ce qui veut dire qu'il n'attend pas qu'on se lamente, mais il attend qu'on fasse une démarche, qu'on lui remette tous nos soucis. Psaume 46, 2 « Dieu est pour nous un abri solide et sûr, il est toujours prêt à nous aider dans le malheur ». Dieu est aux commandes et ce qui secoue le monde ne le prend pas au dépourvu. Ça n'empêche pas que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ni pour nous, ni pour personne d'ailleurs. Les obstacles du quotidien ne sont pas des échecs. Ne nous arrêtons pas à un exaucement qui tarde. Vous savez, Joseph, hein, il y a eu de l'eau qui a coulé sur le pont entre le moment où il a reçu ce que Dieu lui a dit et le moment où c'est arrivé. Voilà, l'exaucement a tardé, mais il est resté fidèle. Comme lui, restons confiants et vainqueurs dans notre cœur. J'ai lu quelque part, je lis beaucoup de trucs, et puis je les écris dans un petit cahier. Et puis quand de temps en temps je vais fouiller dedans, je me dis, tiens, ça c'est pas mal, ouais, je vais me servir de ça. Donc j'ai lu quelque part que dans toute situation, notre état d'esprit joue pour 90% contre 10% pour les événements factuels. Notre état d'esprit joue pour 90% contre 10%. Comment est-ce que je vais appréhender cette situation ? Alors je ne vous propose pas de l'auto-promotion, de l'auto-persuasion, de l'auto-machin truc. Je vous propose juste une remise à jour de notre confiance et de notre foi. Vous savez, Jésus c'est notre modèle et franchement, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille non plus. Mais il a gardé sa confiance dans son Père. Même quand c'était dur et même quand c'était chaud pour lui, eh bien il a gardé sa confiance. Et ce que Jésus a vécu, nous n'aurons pas à le vivre parce qu'il l'a vécu pour nous. Hein ? Donc Dieu veut être notre certitude avec un C majuscule. Même quand tout est noir, même quand on nous annonce les mauvais jours. Alors avoir des certitudes dans des temps d'incertitude ne signifie pas que nous fermons les yeux sur ce qui se passe autour de nous. Cela signifie simplement que nous confions dans la bonté de Dieu, dans son amour et que son amour bannit la frayeur. Ça m'est arrivé parfois de paniquer pour quelque chose et puis de me blottir dans les bras de Dieu et de dire « Seigneur, aide-moi parce que je ne vais pas y arriver ». Et puis la paix est venue. Et c'est ça. C'est à ça que nous devons avoir recours. Choisissons d'avoir la foi, malgré la peur, malgré la négativité qui nous entoure. Nous savons que le Seigneur pourvoira. On ne sait pas comment, mais il le fera. Et il nous procurera ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Dieu est digne de confiance. Nous vivons dans un monde que les limites restreignent. Hein ? Il va y avoir ceci, on ne pourra plus acheter cela, il n'y aura plus là, il n'y aura plus le pouvoir d'achat, il n'y aura plus le truc, le machin. Mais nous avons un Dieu illimité. Et ça, c'est formidable. Et vous savez, il n'a pas une petite vision. Hein ? Il est encore pire que Napoléon. Hein ? Dans Osée 6.3, voici ce que dit Dieu. Alors, enfin, voici ce que dit Osée. Alors, reconnaissons le Seigneur comme Dieu. Cherchons vraiment à le connaître, sa venue est sûre comme la venue du matin, il viendra à nous comme la pluie, comme la dernière pluie de la saison qui arrose la terre. Ah, la pluie, la pluie. On a tellement soif de pluie. On n'a jamais été aussi assoiffé de pluie. Non pas pour nous, c'est bien le soleil, mais pour la terre, pour l'agriculture, pour les nappes d'eau, pour la nature. Alors soyons de la même façon, méga assoiffés de Dieu. Et vous savez quoi ? Bien assis dans notre relation avec Dieu, nous pourrons proclamer sans trembler ce verset 12 du psaume 60. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Napoléon voulait faire des exploits tout seul. Ça n'a pas marché. Mais nous nous disons, avec Dieu, Dieu d'abord, nous ferons des exploits. D'ailleurs, il y a en chacun de nous un feu que Dieu a allumé. Alors comment va ton feu ? Est-il mourant ? Est-ce que ton tirage est bon ? Est-ce que ton feu est pétillant ? Je ne sais pas. Attisons ce feu pour qu'il grandisse et atteigne notre entourage. Hein ? Ce feu brillera plus que l'incertitude, la crainte et tout ce qui nous trouble. Il nous aidera à surmonter l'ambiance anxiogène qui nous entoure. Et alors, nous serons source de chaleur, de lumière du monde, de celle de la terre. Ça s'appelle la contagion. Et il n'y a pas de vaccin contre l'amour et la sécurité divine. Ça ira loin, mes amis. Habacuc 2,14 dit ceci. Oui, tout tous connaîtront la gloire du Seigneur, elle remplira la terre comme l'eau remplit les mers. » Il y en a des litres dans la mer, hein. Ben, la gloire du Seigneur remplira la terre comme l'eau remplit les mers. Alors peut-être que vous êtes en train de vous dire que je n'ai pas la plus petite idée de ce que vous traversez. Et vous avez raison, c'est sûrement vrai. Peut-être que les circonstances de votre quotidien et le contexte actuel vous donnent envie de tout laisser tomber. Vous vous sentez perdu, seul dans un épais brouillard. Ça arrive à tous, ça nous arrive à tous. Savez-vous comment les bateaux signalent leur présence quand le brouillard enveloppe tout en mer? Ils sonnent la corne de brume. Quand nous allions en vacances à Dieppe, en Normandie, c'est beau la Normandie, Vito. Eh bien, le matin, on n'avait pas besoin d'ouvrir les volets. On entendait la corne de brume, on disait « aujourd'hui, c'est une journée sans ». Ça arrive souvent en Normandie aussi. Hein. Donc, ils utilisent ils sonnent la corne de brume. Alors que disent-ils avec cette corne? Ben, ils disent « voilà, nous sommes là, c'est notre position, on veut éviter de faire boum avec notre bateau, nous allons effectuer telle ou telle manœuvre ». Mais la corne de brume peut aussi être utilisée en cas de détresse. Il y a un code maritime que les marins connaissent. Ils peuvent déchiffrer les messages, même s'ils sont dans une visibilité nulle. Hein. Mais si un navire fait l'économie de sonner la corne de brume alors qu'il est en détresse, il restera dans sa position de détresse. D'autres bâtiments peuvent passer tout près de lui, mais ils ne savent pas qu'ils sont en détresse. Alors si vous avez l'impression de ressembler à ce bateau, battu par les flots, secoué, malmené, ben, actionnez votre corne de brume. Appelez au secours. Ne laissez pas cet environnement effrayant prendre le dessus sur votre foi. Ne faites pas comme si. Hein, vous savez, faire comme si tout allait bien. Moi, j'ai souvent fait comme si tout allait bien. Et je l'ai regretté après. Nous sommes là pour vous écouter, pour prier avec vous, pour vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Il n'y a pas à hésiter. Vous savez, nous passons tous par des creux, à un moment donné ou à un autre, un creux de vague. Hein. Et celui qui tend la main pour aider aujourd'hui peut être celui qui va se noyer demain et qui aura besoin qu'on lui tende la main. Donc, que ça soit pas une... On dit, ah, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que... Ah ben non, sûrement pas. Simplement, actionnez votre corne de brume. Quand j'étais directrice de l'école Timothée, j'avais pour principe de lire tous les livres auxquels les enfants avaient accès. C'était bien, j'aimais bien. Je suis comme Elisa, j'aime lire. Et je me souviens d'un roman qui s'appelle « Un chant sous la terre ». C'est Florence Reynaud qui a écrit ça. Et l'histoire se déroule au 19e siècle. La jeune héroïne s'appelle Isabelle, elle a 12 ans et elle a une voix magnifique. Mais à cette époque-là, il n'était pas question que les filles quittent la maison, elles attendaient d'avoir un mari, et ainsi de suite. Donc son père refuse qu'elle parte pour la ville afin de prendre des cours de chant. Lui, le papa, il est mineur. Il travaille à la mine pour nourrir sa famille. À un certain moment, il se blesse. Et alors que son papa est blessé, ben, il fallait bien que quelqu'un ramène un peu d'argent à la fin de la semaine. Donc Isabelle a dû descendre dans la mine pour le remplacer. Et un jour, alors qu'elle était au fond avec tous les mineurs, une explosion se produit et bloque toute l'équipe au fond. Alors bon, les secours se heurtent à des galeries effondrées, ils ne savent pas comment se diriger pour sauver les mineurs, c'était la vraie pagaille. Le temps presse, l'oxygène se fait rare, alors les hommes encouragent Isabelle à chanter. Elle n'avait pas envie de chanter. Franchement, ce n'était pas des circonstances dans lesquelles on a envie de chanter. Mais il l'encourage à chanter. Pourquoi? Pour orienter les recherches. Et c'est sa voix qui a guidé les secouristes jusqu'au rescapé. Pourquoi cette histoire? Parce que trop souvent, quand on ne va pas bien, on s'isole, on s'éloigne et on se tait. Vous savez, quand on était à Fontenay pendant nos 30 années où on a eu été pasteur de l'église, eh bien, nous avons souvent vécu cette situation. On découvrait la détresse des personnes seulement quand elles n'en pouvaient plus, quand on les mettait à l'hôpital parce qu'elles ne s'en sortaient plus. Mais quand elles arrivaient à l'église, elles faisaient comme si. Et on ne pouvait pas déceler. Alors si vous n'allez pas bien, si votre vie ressemble à un esquif au sein de la tempête, permettez-nous de vous aider et de prendre soin de vous en partageant vos souffrances. Dans Hébreux 10, 24, c'est un ordre. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. S'encourager, prendre soin, ça veut dire forcément passer du temps ensemble. Pouvoir échanger, discuter de nos joies, de nos vies, de nos difficultés. Vivons ces temps privilégiés dans l'amour que Dieu nous demande de cultiver. ne tenons pas à l'écart. Donnons-nous les moyens d'être des rouges-gorges en pleine santé, dont le plumage coloré attirera le regard de ceux qui broient du noir et dont le gazouillis interpellera ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'espérance. Et vous savez, le temps urge. On n'a pas 10 ans pour réfléchir. La moisson est abondante et tous les événements nous montrent qu'il faut s'activer. Donc, vous savez que nous abordons une nouvelle année d'activité avec notre famille Josué. Alors, en tant qu'enseignante, moi, quand on me dit l'an prochain, ce n'est pas le 1er janvier, c'est la rentrée des classes. Donc, je suis formatée comme ça. Donc, c'est dans cette optique-là que je vous livre ceci. Donc, et nous avons tous notre tâche, notre place. Est-ce que vous voulez vous investir ? Nous avons parlé de ce chant qui nous dit que demain ne nous appartient pas. À qui appartient demain ? Vous me permettez de donner le micro à Victor Hugo une fois de plus pour une parole sage et de circonstance. Il s'agit d'un extrait de poème écrit au lendemain de la mort du fils de Napoléon Ier. C'était Napoléon II, surnommé l'Aiglon, mais il est mort très jeune de la tuberculose où il avait 21 ans. Et quand cet enfant est né, son papa, donc Napoléon Ier, très fier, était super fier, comme le sont tous les papas, mais lui peut-être encore un degré au-dessus. Et il a pris l'enfant dans ses bras, et il l'a levé bien haut pour que tous ceux qui étaient là le voient. Et emporté par sa fougue, il s'est écrié « L'avenir, l'avenir, l'avenir est à moi ». Bon, après, il y a eu l'île d'Elbe, puis il y a eu l'île de Sainte-Hélène, et puis Napoléon a perdu la vie. Et son fils l'a suivi, une dizaine d'années, je crois. Après le décès de ce fils, emporté prématurément par la maladie, Victor Hugo répond, entre guillemets, à Napoléon, qui n'est plus de ce monde, mais voilà, il répond à sa phrase. Et il lui dit « Non, l'avenir n'est à personne, sire. L'avenir est à Dieu. Dieu garde la durée et vous laisse l'espace. Vous pouvez sur la terre avoir toute la place, être aussi grand qu'un front peut l'être sous le ciel. Sire, vous pouvez prendre à votre fantaisie l'Europe à Charlemagne, à Mahomet, l'Asie. Mais vous ne prendrez pas demain à l'éternel. » Voilà. Et je pense que nous pouvons dire au diable « Tu ne prendras pas demain à l'éternel. » Alors cette année d'activité qu'on commence là, ne nous appartient pas, ni à nous ni à personne, on ne sait pas ce qui va se passer. On peut faire des plans sur la comète, mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. C'est un cahier tout neuf qui nous est offert. J'aime bien à la rentrée les cahiers neufs, vous savez, même les enfants ils aiment, avec leurs mains ils lissent la page. Bon, 8 jours après, ça a changé, mais voilà. Donc, qu'allons-nous écrire sur ce cahier ? Ce que nous écrirons, chaque pensée, chaque prière, chaque rature, chaque majuscule, chaque parole d'encouragement, mais aussi chaque mot qui juge, chaque idée, chaque goutte d'encre utilisée, tout cela nous appartient. C'est un travail d'équipe. À Dieu le cahier, à nous le crayon. À nous les portées musicales que Dieu nous offre pour que sur lesquelles nous écrirons nos mélodies de joie, d'espérance, de victoire et de persévérance. C'est un travail d'équipe. Dieu, toi, moi, nous. Vraiment, ça brûle dans mon cœur quand ça nous écrivions pour les offrir à Dieu des pages qui réjouiront son cœur. Alors, il y aura sûrement, comme dans les psaumes, des temps, d'état, des lieux qui ne seront pas très brillants. Vous avez remarqué, dans les psaumes, souvent ça commence, c'est pas très encourageant, très spirituel, dirons-nous. Mais que notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant est toujours le mot de la fin. Comme David, souvent dans les psaumes, d'ailleurs. Il sera toujours à nos côtés. À tes côtés, à mes côtés. Même si la saison est rude, Dieu nous veut sur le champ de bataille. Et c'est lui qui combattra pour nous. Je voudrais terminer avec ce verset de Matthieu 5, verset 16, au cas où vous auriez encore des doutes sur le fait que Dieu veut se servir de vous. Donc voici ce que dit ce verset. De la même façon, votre lumière doit briller. Il n'a pas dit la lumière des pasteurs, la lumière des anciens, la lumière... Non, c'est votre lumière. C'est ta lumière, Béatrice. C'est ta lumière, Fabrice. C'est la lumière de chacun. Votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors, les autres verront le bien que vous faites et ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Et vraiment, je prie pour que nous puissions gazouiller que nous puissions briller, que nous puissions apporter la couleur. C'est vrai que notre région en a besoin, notre pays en a besoin, nos familles en ont besoin. Vraiment, que Dieu nous aide à en prendre conscience et à lui faire confiance pour qu'il se serve de nous. Voilà, soyez bénis.